bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, c'est pas moi qui fais d'interview, ce n'est pas moi qui suis interviewée non plus, mais c'est Fabien qui va interviewer sa formatrice dans une approche de thérapie dans laquelle il est en train de se former en ce moment et dont vous nous demandez tout le temps de vous parler, puisque parfois vous nous demandez est-ce que ça ressemble à l'EMDR, est-ce que c'est pareil, pas pareil, comment ça marche, etc. Et donc comme Fabien se forme en ce moment à la thérapie mosaïque, donc tu as fait le premier module, le premier niveau, je sais pas comment vous
appelez
ça, voilà. Et donc tu vas faire d'autres spécialisations parce que ça t'a beaucoup plu, mais tu vas nous en dire aussi toi un peu plus. Voilà, donc on est aujourd'hui avec Stéphanie Calfa qui a créé l'approche, va nous expliquer un petit peu tout ça. Et donc bah voilà, on va. Alors moi évidemment, comme je parle beaucoup, peut-être si j'ai des choses que j'ai envie de savoir, je les interromprai, mais voilà, c'est eux qui vont mener l'entretien et moi je vais découvrir avec eux, puisque je connais deux noms, par Béatrice, pour rappeler peut-être de Béatrice du Safety, qui est venue aussi sur ce podcast, qui m'avait parlé, donc parce que tu travailles, Stéphanie, aussi parfois avec elle, et tu donnes la formation au Safety de temps en temps, je crois, j'ai vu. Voilà, donc j'ai entendu un petit peu parler, mais je suis très contente aujourd'hui d'en connaître plus, mais en même temps que vous tous, donc laissons la place à Fabien et Stéphanie.
Eh bien, bonjour Stéphanie. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, me dire quel est ton parcours, parce que tu as quand même un parcours un peu atypique.
Ok, alors je viens de la biologie en fait, hein, pour commencer. Donc moi je suis docteur en neurosciences de l'université Claude Bernard à Lyon. Et c'est vrai que oui, je viens de loin, parce qu'en fait j'ai travaillé sur le système auditif et les asymétries dans ma thèse. Et puis après, j'ai travaillé sur les émotions musicales et comment ça marchait dans le cerveau. Et puis un jour, je me suis dit, je vais pas aider assez de gens dans ce que je fais. Et c'était très intéressant ce que je faisais, mais j'ai dit, je voudrais me réorienter. Et je me suis réorientée sur le stress, et notamment sur le stress post-traumatique. Et voilà, donc du coup, j'ai lu à ce moment-là, on m'a mis entre les mains le livre de David Sarrenschreiber, Périr. J'ai découvert le MDR. J'ai dit, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux étudier. Et du coup, je me suis lancée sur des études sur le MDR et le stress post-traumatique, l'efficacité. Et on a fait des IRM avec des patients avant, après traitement, et pour essayer de comprendre comment ça marche, pourquoi des mouvements oculaires ou d'autres stimulations alternées pouvaient aider des gens. Parce que tout le monde disait, c'est quoi ce truc? Et moi, je voulais comprendre. Donc, j'ai essayé de voir dans le cerveau qu'est-ce qui se passait. Et en parallèle, comme je devais traiter les patients, je me suis reformée et j'ai repris des études pour devenir aussi psychologue. Donc, voilà mon cursus. Et puis, c'est comme tout psychologue, hein, quand on commence à se former, on n'arrête plus de se former, hein, vous le savez. Donc, on commence une formation, puis une autre, puis une autre. Alors, même si j'étais toujours dans le MDR, j'ai enrichi tout mon panel de formation. Et c'est vrai que je l'ai intégré au fur et à mesure. Et puis, un jour, ça a été un déclic parce que j'ai rencontré la thérapie solutionniste en allant faire de l'hypnose. Et donc, ça veut dire que...
C'est l'IOS dont on a parlé.
L'IOS, intervention orientée solution, c'est...
Oui, c'est ça, orientée solution. Et donc, vraiment, l'idée, c'est plus d'aller dans le problème, d'aller voir les causes. C'est vraiment d'aller vers les solutions de la personne. Et ça, j'ai dit, ça, c'est pour moi. Ça me paraît tellement... Je me dis, ah oui, moi, j'aime les choses directes, j'aime les choses efficaces. Et puis, je voyais tellement les patients souffrir quand on était dans le trauma, en fait. Même si c'était efficace, il y a quand même des passages vraiment difficiles. Et en même temps... J'avais créé un modèle neuronal sur comment fonctionnaient les stimulations bilatérales alternées dans le MDR. Je me suis dit, mais comment on peut faire ça? Parce que c'est très puissant quand même, ces stimulations alternées. Je me dis, comment on peut faire ça en même temps que la thérapie solutionniste? Parce que je trouvais que les deux ensemble, ça aurait vraiment une bonne puissance. Parallèlement, je travaillais déjà beaucoup sur le corps. Et en fait, il a suffi que je renverse le modèle. Et je me suis dit, au lieu de partir des causes, je vais partir de la solution. Et la solution, on va la faire vivre dans le corps. Et pour faire bref, hein, donc voilà, ça a été l'aventure de la création de la thérapie mosaïque que j'ai fait avec le collègue qui formait à l'hypnose. Et puis, on a travaillé comme ça un an et demi ensemble. Ah, je suis désolée, c'est une longue présentation, maintenant je fais de l'histoire.
Mais non, mais on a tout notre temps, tu peux y aller.
Donc, on a créé ça, et puis comme il avait une boîte de formation, on a commencé à enseigner, et puis c'est vrai que ça a beaucoup plu, il y avait des très beaux résultats. Moi, j'ai testé beaucoup avec mes patients. Et voilà, un an et demi après, on a décidé de plus travailler ensemble et j'ai continué de faire évoluer la méthode, la thérapie mosaïque. Donc maintenant, les deux organismes de formation sont complètement différents et je dirais que on s'est vraiment, même si le principe reste le même, on s'est beaucoup, beaucoup éloigné. Donc voilà, donc on en est là. Et puis donc maintenant, je dirais que c'est toujours thérapie mosaïque, mais je mets aussi le nom thérapie mosaïque alpha de manière à ce que les gens puissent comprendre et distinguer, parce qu'on ne peut pas passer d'un organisme à l'autre, en fait. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc tout est tout le temps en évolution dans la vie, puis ça continuera d'évoluer en plus, il y a des nouveaux modules qui apparaissent régulièrement, il y a plein de choses qui, voilà, ça s'enrichit tout le temps, et voilà, et comme ça, les gens apprennent de mieux en mieux, et c'est de plus en plus efficace.
Super. Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est que Mosaïque ou Mosaïque Alpha, du coup, comme tu l'appelles maintenant ?
Ouais. La thérapie, donc Mosaïque, ça veut dire mouvement oculaire et stimulation alternée pour l'intégration cérébrale.
Ah, donc c'est un acronyme, d'accord.
C'est un acronyme, oui. Je voulais que ce soit à la fois un acronyme et un nom qui dise quelque chose. Et c'est vrai que dans Mosaïque, il y a plein de choses. C'est vraiment une thérapie intégrative. Hein. C'était pour ça que c'était important aussi d'avoir cette idée-là de la Mosaïque qu'on réunit et qu'on unit en fait les forces de différents points de vue. En fait. Donc la thérapie Mosaïque, ça consiste vraiment à aller, comme je disais, aller vivre les solutions dans le corps. C'est-à-dire que on va chercher à comprendre comment fonctionne le problème. Et quand on a compris comment il fonctionnait, ben on va dire, OK, donc la solution, elle est à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Qu'est-ce que la personne, de quoi elle a besoin ? Qu'est-ce qu'elle a besoin de vivre, en fait, et de sentir dans son corps ? Et qu'est-ce qu'elle a besoin de vivre dans son corps de manière puissante, je dirais ? Et ça, c'est les stimulations alternées qui vont nous donner cette puissance, cette amplification de la sensation. Et pourquoi aller sur la sensation ? Parce que la sensation, elle est première. C'est-à-dire qu'elle prend le pas sur tout ce qu'on peut penser, imaginer, décider. C'est-à-dire que si le corps il a décidé « j'ai peur », on peut faire tout ce qu'on veut, on peut raisonner autant qu'on veut, ça ne part pas. Si vous avez peur d'une araignée, aussi petite soit-elle, aussi inoffensive soit-elle, vous pourrez dire tout ce que je voudrais, je ne vous convaincrai pas qu'elle n'est pas effrayante. C'est pareil, je dirais, dans le sens de ce qu'on veut obtenir, si on veut de la légèreté, si on veut de l'espace, si on veut de l'ouverture, si on veut de la détente, etc. Eh ben, quand on va vivre ça pleinement, et donc on le fait, on va amplifier le réseau qui représente cette sensation qu'on appelle la sensation interne désirée par le patient, qui est vraiment pas une sensation de ressource. C'est vraiment la sensation qui est associée à exactement le problème de la personne. C'est vraiment la solution à ce problème. Donc elle est très très spécifique. Donc ça demande un travail très fin pour trouver la bonne sensation ajustée à chaque personne. Et le thérapeute va vraiment participer à ça. Et quand la personne le vit, alors, à ce moment-là, et qu'on a amplifié ce réseau grâce aux stimulations alternées, alors la personne va pouvoir rencontrer de loin, et d'un point de vue cognitif, je dirais, une image du problème. Et c'est cette rencontre entre le réseau de la solution et le réseau du problème.
Mais quand on dit réseau, juste pour les personnes qui nous écoutent, c'est les réseaux neuronaux, c'est ça ?
Oui, c'est les réseaux neuronaux. Donc voilà, on rappelle, on fait vraiment sentir la personne, donc on active les réseaux neuronaux de l'interoception, des sensations internes, de la solution, qui vont rencontrer l'image, en fait, problématique, dans une seule rencontre, avec les stimulations bilatérales alternées qui permettent la synchronisation de ces réseaux, ensemble, et qui se parlent, en fait. Et la sensation interne désirée, la solution, va prendre le dessus, en fait, elle va enrichir le réseau traumatique et va l'informer qu'il n'y a plus de problème aujourd'hui, et que tout va bien, et elle va lui permettre de se transformer, et pas de rester dans une boucle infernale complètement séparée, sans connaissance de l'actualisation de la vie de la personne, en fait.
Et j'avais lu un papier que tu avais écrit sur la résonance stochastique, donc c'est ça que tu appelles la résonance stochastique, c'est quand tu as en même temps les réseaux neuronaux de la solution et ceux du problème qui agissent ensemble ?
Non, c'est pas ça la résonance stochastique. La résonance stochastique, c'est le fait d'envoyer un bruit sur un système. Quand on envoie un petit bruit sur un système, c'est une loi physique en fait, ça augmente la détectabilité des signaux. Les stimulations bilatérales alternées, elles vont faire ça. En fait, elles n'ont pas de sens pour le cerveau. Donc, on envoie soit des sons, un coup à droite, un coup à gauche, soit des tapotements, soit les mouvements oculaires. Alors, on fait beaucoup moins les mouvements oculaires dans Mosaïque parce qu'on a besoin de se concentrer beaucoup pour les sensations. C'est une possibilité quand même. Et donc, ce sont comme des bruits pour le cerveau. Et en fait, ces bruits vont exciter des neurones qui n'étaient pas excités, qui n'étaient pas loin d'être excités, mais qui vont s'exciter à ce moment-là. Et donc, ça augmente la détectabilité du signal. Et donc, ça amplifie le signal. Et ça favorise du coup la synchronisation, en fait, avec toutes les autres structures qui sont activées. Donc, en fait, la résonance stochastique va amplifier le signal et va permettre ensuite, puisqu'il y a activation, ça, c'est les lois habituelles, les lois neuronales habituelles, va permettre une synchronisation puisque les neurones déchargent en même temps, en fait.
D'accord.
Donc, ils se parlent à ce moment-là, ils se connectent de manière préférentielle. Et du coup, les réseaux sont informés, enrichis de nouvelles informations.
Je coupe quelques instants cet échange passionnant pour vous rappeler de vous abonner à notre lettre psy. Vous le savez peut-être déjà, mais nous vous proposons un email gratuit avec 3 articles et une citation toutes les 2 semaines. Vous pourrez aussi y trouver toute notre actu sur les réseaux sociaux et podcasts, comme ça vous serez sûr de ne rien rater. Mais ce dimanche 28 mai sortira une édition un petit peu spéciale, à l'occasion de la sortie de notre nouvel atelier en ligne sur la stabilisation émotionnelle, qui sortira lui aussi ce dimanche, nous proposerons une réduction à nos abonnés de notre lettre psy. Vous le savez déjà peut-être, mais nous ne faisons que rarement des réductions sur nos ateliers, alors si vous souhaitez améliorer votre régulation émotionnelle pour mieux vivre vos émotions, eh bien c'est peut-être l'occasion de vous inscrire à la lettre psy. Dans cet atelier, vous trouverez toute l'expérience de Catherine en cabinet, avec pas mal de pratiques puisqu'il contient 18 exercices pour vous permettre d'améliorer votre régulation émotionnelle, et aussi une partie théorique issue des meilleurs livres sur le sujet, ainsi que de nombreuses études scientifiques que nous avons lues pour vous proposer l'atelier le plus pointu possible. Et puis il y a aussi 6 séances d'hypnose que je vous propose et qui vous aideront à mieux comprendre le fonctionnement de vos émotions et les réguler. Bien entendu, si vous êtes vous-même psy, coach ou professionnel de l'accompagnement, les ressources que contient cet atelier pourront être utilisées en séance avec vos patients ou clients. La lettre et l'atelier sortent ce dimanche 28 avril et pour profiter de la réduction, n'oubliez pas de vous inscrire gratuitement sur notre site internet catherineapsy.com. Et maintenant, retour en compagnie de Stéphanie Calfa et de Catherine.
Donc, je sais pas les personnes qui nous écoutent à quel point elles sont connaissantes de ça, mais souvent on nous demande, parce que par exemple entre l'hypnose et le MDR, bon, effectivement, il n'y a pas que les SBA, les stimulations bilatérales alternées, qui font la différence, mais pour les gens qui ne connaissent pas très bien les thérapies, ils disent voilà, c'est ça la différence. Est-ce que vraiment c'est utile d'avoir ces SBA? Et toi, tu as vraiment étudié ça et finalement tu dis oui, les stimulations bilatérales alternées sont vraiment utiles dans la thérapie, alors que ce soit motaïque ou MDR, et ça change quelque chose qu'on les fasse ou qu'on ne les fasse pas.
Et pour des raisons biologiques en fait.
Pour des raisons biologiques, oui.
C'est ça, parce que nous, on a fait plusieurs études. Avec un collègue, là, on avait lancé une étude, c'est lui qui l'a fait à Bordeaux, docteur Cyril Herry, une étude sur les souris, où on a dit, voilà, regardez, on fait même pas de la thérapie, dans un modèle où on leur apprend à avoir peur, et au moment où on leur apprend à ne plus avoir peur d'un son, donc ce qu'on appelle l'extinction de la peur, après un conditionnement, si on rajoute des stimulations bilatérales alternées, donc chez les souris, on a fait des petites vibrations sur les paupières, la souris, les groupes de souris qui a eu les stimulations, en fait, va éteindre la peur beaucoup plus facilement et rapidement que les souris qui n'ont pas eu les stimulations. Et on a reproduit cette même expérience chez l'homme, où on montre aussi que le groupe qui a eu les stimulations bilatérales alternées, lorsqu'ils apprennent à ne plus avoir peur parce que le stimulus n'est pas suivi par un petit choc électrique, ben il va y avoir une facilitation de l'apprentissage de l'extinction de la peur. Donc, ça touche vraiment les mécanismes de l'extinction de la peur. Et après, on a été plus loin, puisqu'on a été montré qu'en IRM, effectivement, l'ajout des stimulations bilatérales alternées allait activer des réseaux de neurones impliqués dans la mémoire et augmente aussi la connectivité entre des réseaux impliqués dans la perception, l'analyse des émotions, l'interprétation des émotions, le traitement émotionnel, le traitement en mémoire. Et aussi, la façon dont on se voit, les croyances qu'on peut avoir sur soi, la conscience de soi. Donc, on s'est dit, ah oui, donc c'est... On comprend pourquoi ça a un effet. Hein. C'est pas juste ça active le cortex auditif ou le cortex somesthésique selon ce qu'on fait comme stimulation. Non, ça active tout un réseau et ce réseau, c'est exactement le réseau mémoire, émotion, perception, sensation, etc. Donc on s'est dit oui, il y a vraiment quelque chose qui se passe grâce à l'activation de ces stimulations alternées.
D'un point de vue extérieur, là, c'est peut-être vous pourrez m'aider, mais par rapport à ce qui existe déjà en thérapie qui utilise les stimulations bilatérales alternées comme EMDR, IMO ou RITMO, qu'est-ce qu'il y a comme différence finalement entre les deux? J'ai compris que tu avais dit IOS, l'intervention orientée solution. Est-ce qu'il y a d'autres trucs comme ça qui diffèrent? Parce que toi, tu es plus...
J'ai envie de dire qu'est-ce qu'il y a comme similitude. Et je dirais que la seule similitude qu'il y a avec l'approche que tu viens de citer, c'est qu'on utilise des stimulations bilatérales alternées. Mais sinon, souvent les gens me disent « Ah, mais moi je suis formée à l'EMDR, est-ce que je peux faire un truc accéléré ou un jour seulement ?» Mais ça n'a rien à voir. Mm-hmm. Dans ces thérapies, on va vraiment chercher la cause. Il y a vraiment l'idée qu'il y a un souvenir source qui fait que le trauma s'entretient. Nous, on ne s'intéresse pas aux causes du tout. Hein, l'idée, c'est vraiment, c'est Marshall Rosenberg qui disait ça, le père de la communication violente. Il n'y a pas besoin de savoir qui a ouvert la porte pour la fermer. On est vraiment dans cette optique-là. On est dans l'optique d'aller vraiment vers les solutions. Donc, je dirais que on est très loin. On est vraiment dans une optique solutionniste, mais les solutionnistes n'ont pas l'approche, cette même approche qui va utiliser les stimulations alternées, qui va utiliser vraiment les sensations corporelles et qui va réunir des réseaux. Hein. Donc, c'est vraiment très spécifique. Et en même temps, ben, on va utiliser beaucoup de choses des autres thérapies, puisque on fait des recadrages, on fait de l'empathie. on est dans un état modifié de conscience, on utilise des stimulations alternées, comme dans le MDR, ou rythmo, ou autre. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se retrouver. On est dans une approche corporelle, donc on se retrouve dans les thérapies humanistes aussi. Sauf que, on fait pas vivre le problème, on fait vivre la solution.
C'est ça qui te plaît pas mal, toi.
Ouais, moi j'aime bien ça, parce que le MDR, je trouve que ça pique un peu quand même, hein. ça gratte quand même.
C'est vrai que nous, on va chercher des choses dans le passé, on fait des hypothèses sur l'origine des problématiques, alors que toi, déjà en hypnose, quand tu t'étais formé, t'aimais bien ce côté où on s'en fichait de ça.
Ouais, je trouve ça plus confortable en tant que personne qui est patient, mais j'imagine que pour la personne aussi qui donne la thérapie, c'est aussi plus confortable de ne pas avoir à se frotter avec des choses comme ça un peu plus délicates, quoi.
Moi, quand j'ai commencé à l'utiliser, que j'ai créé, parce que j'ai testé sur mes patients, en fait, qui faisaient tous de l'MDR, hein, puis j'ai ajouté des choses aussi de ce que je connaissais, d'autres thérapies. Ils m'ont dit, c'est super ce que vous faites, là, c'est quoi? Voilà. Donc, j'ai pas trop prévenu, j'ai dit, on fait un truc un peu différent aujourd'hui. Et ils ont adoré. Ils ont adoré, et puis, moi, j'étais là, je regardais l'efficacité, je dis, ah oui, ça marche. Puis après, un autre patient, puis je dis, ouais, non, mais peut-être, si le trauma est vraiment très, très dur, et au fur et à mesure, je voyais qu'à chaque fois, ça marchait, puis c'était direct, en fait, très, très direct. On n'avait pas besoin de repasser par plein d'associations, par plein de mémoires. C'était très, très direct, la solution. Donc oui, les patients, ils adorent. Souvent, ils ont beaucoup d'émotions, ne serait-ce que de vivre leur solution. En fait, c'est très, très émouvant pour eux. Parce qu'ils pensaient qu'ils n'avaient même plus accès à ce genre de choses. Hein. Il faut savoir que dans le cerveau, tout est codé, on a tout en accès. Hein. C'est une banque. C'est une banque de mémoire. On a tout qui est là. Hein. Donc, le thérapeute, il est là pour réveiller ça. Et oui, alors, en tant que thérapeute, vraiment, ça change tout. Moi, j'étais vraiment dans une posture beaucoup, beaucoup, beaucoup d'empathie, beaucoup de tenue, beaucoup pour vraiment d'être de grande réassurance. Et oui, et puis j'entendais toutes les horreurs, tout ce qu'ils avaient vécu. Alors, c'est pas qu'on les entend plus, parce que les gens, s'ils ont besoin qu'on les entende, on va les entendre, mais ils ne sont pas obligés d'y aller. Ils ne sont pas obligés de se retraumatiser à raconter les détails de ce qu'ils ont vécu. On n'en a absolument pas besoin. Et oui, il y a un confort énorme, d'autant que nous, en fait, avec les neurones miroirs, hein, quand on fait vivre le trauma, on le revit aussi. Mais quand on fait vivre la solution, ben on la vit aussi. Hein.
Oui.
Et des fois, c'est spectaculaire pour certains patients parce qu'il y a des gens, ils font des expériences intenses, en fait, de leur solution. Moi, une fois, j'ai une patiente, elle avait vécu la grâce dans mon cabinet. Mais vraiment la grâce, quoi. Elle sentait, ah ouais, c'était extraordinaire. Et moi, j'étais baignée de grâce. C'était une expérience que je n'avais jamais fait avant dans les autres thérapies. Et voilà, donc on vit des très belles choses aussi avec nos patients. C'est très émouvant, mais dans le sens de la beauté du changement, de la beauté de vivre des choses qui sont importantes pour la personne. Donc oui, ça donne une autre énergie.
Comment est-ce que tu as mis au point finalement une thérapie? Comment ça se met au point? Tu arrives avec une idée, tu essayes avec 2-3 patients. Comment ça marche la création d'une thérapie?
Alors moi, je peux parler que dans mon cas, hein, parce que moi, c'était vraiment comme mes problématiques scientifiques. J'étais là, je me disais... Moi, je suis un peu têtue. J'ai dit, je veux solutionniste, je veux les stimulations alternées. Donc, comment faire? Je me suis dit, comment on réunit les deux? Bon, solutionniste, c'est qu'on commence par la solution. Je vais commencer par la solution. Donc, j'ai dit, j'aurais essayé, on va voir si ça marche. Et c'est vraiment ça. Et j'ai jamais pensé un jour faire une thérapie, en fait. C'est vraiment parce que ça m'énervait de pas avoir les deux, en fait. Et je me suis dit, pourquoi on n'aurait pas les deux? C'est la limite qui m'a énervée. Puis, je me suis dit, pourquoi on est obligé de souffrir en thérapie? Et donc, je voulais plus la souffrance. Moi, j'aime pas la souffrance. Et c'est bien pour ça que je me suis engagée dans la thérapie. Et je me suis dit, mais si on peut ne pas souffrir, et en même temps que ça aille vite, ben, c'est beaucoup mieux. Et voilà, donc en fait, il y a des structures de base qui sont là. Hein, la façon dans l'entretien solutionniste, il y a des choses qui ont été reprises, puis des choses qui ont été améliorées, des choses qui ont été changées, qui ont été rajoutées. Mais voilà, le cœur, c'était vraiment ce retournement, cette boucle qu'on appelle la boucle de reconnexion. Et ça, c'est vraiment parce que j'ai dit, bon, j'avais le modèle en tête quoi, de comment ça marche. Hein, ça s'appelle le modèle neuronal de synchronisation stochastique que j'ai expliqué très brièvement tout à l'heure. Et c'est vrai que ça m'a permis de... Et c'est tout l'intérêt d'un modèle scientifique, en fait, même s'il n'est pas encore validé, hein, c'est de réfléchir, hein, c'est de raisonner, c'est comme dans la physique. Et du coup, j'ai dit, on va faire l'inverse et on va voir si on fait la rencontre inverse. Au lieu de dire, je pars du problème et je vais jusqu'à la solution, je vais partir de la solution. Et ça a marché. Donc, voilà comment ça s'est créé.
Et maintenant, est-ce que tu fais des études scientifiques sur l'efficacité, justement, de la thérapie mosaïque?
Oui. Et oui, en bonne chercheuse, je me colle au modèle scientifique et je sais à quel point c'est important de vérifier, de prouver les choses parce que on a tellement peur d'aller faire des choses, d'aller faire des thérapies qui marchent pas ou qui sont pas efficaces ou de voir des charlatans. Donc, Après, ça n'enlève pas qu'il y a aussi la qualité du thérapeute qui joue, et ça, c'est vraiment important, je le dis. Il ne suffit pas d'avoir une méthode. Mais oui, donc moi, j'œuvre vraiment pour qu'on puisse faire des recherches. Et on a fait une première recherche, qu'on appelle une recherche observationnelle, c'est-à-dire que dans deux hôpitaux, à Marseille et à Avignon, là, qui sont des centres spécialisés dans le psychotrauma, on a traité des patients. Et on a récupéré les données pour les patients qui avaient fini la thérapie, donc des patients qui ont été traités par le MDR et d'autres patients qui ont été traités par Mosaïque. Et d'ailleurs, cette étude est publiée, donc elle a été réalisée en grande partie par mon étudiante de thèse, puisqu'il y a deux thèses actuellement sur la thérapie Mosaïque, hein, deux thèses en psychologie. Et c'est vrai qu'on a pu montrer que c'est bien plus confortable, les premières séances, c'est bien plus confortable de faire la thérapie Mosaïque que de faire la thérapie EMDR. Puis après, je dirais que le confort en séance se rejoint à la fin, puisqu'il y a une désensibilisation dans le cas de l'EMDR des mémoires douloureuses. Mais au début, voilà, les gens tout de suite ne souffrent pas. Et puis on a montré que c'était rapide aussi. Hein. On a une efficacité qui était rapide. Hein. On a quand même des traumas simples, on les a traités en 3,5 séances en moyenne.
Ah oui, c'est très très rapide.
Oui, c'est rapide. Après, ça ne veut pas dire que c'est toujours comme ça. Enfin, voilà, mais... Donc du coup, après, il faut valider avec des études cliniques qui sont beaucoup plus rigoureuses, mais qui coûtent de l'argent, qui coûtent très cher. Donc en fait, il fallait déjà des études préliminaires comme ça. Donc on a fait cette étude préliminaire. Et après, j'ai fait des demandes d'argent et on a obtenu un gros financement, on appelle un PHRC national. C'est une étude hospitalière sur toute la France là, qui va impliquer 9 à 10 centres hospitaliers. Wow, qui vont participer à cette étude pour prouver la non-infériorité entre la thérapie EMDR et la thérapie Mosaïque, c'est-à-dire que ça marche aussi bien, que la thérapie Mosaïque est aussi supérieure à une thérapie de soutien classique. Et on va étudier aussi le fait que ce soit confortable ou pas, plus ou moins agréable, et comparer les trois thérapies. Donc voilà, donc c'est une étude qui va bientôt se lancer dans quelques mois. On est au stade de passer le comité d'éthique. Et voilà, donc c'est une grosse étude qui va prendre 3-4 ans.
Sacré chantier, quoi.
Oui, chacun
le sentait, c'est super parce qu'il n'y a pas énormément, d'approches qui font des recherches aussi sérieuses que ce que tu décris. En fait, quand même, par exemple, moi aussi, j'étais pas psychologue avant, donc c'est une reconversion, mais j'ai commencé par me former à l'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle, t'as rien du tout. Enfin, si tu veux voir un petit peu comme étude, alors ça veut pas dire que c'est inintéressant, mais je trouve que je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est important qu'on cherche un peu à prouver ou autant que possible, parce que ça reste des sciences humaines, mais quand même, ce qu'on est en train de faire pour pas faire de mal aux patients et puis pouvoir leur montrer que ce qu'on leur propose, bah, ça a du sens et ça vient pas de nulle part, quoi.
Oui, c'est pour rassurer, parce que moi, je vois bien l'efficacité, mais tout à fait. Bah, en fait, il se trouve que je viens des neurosciences, quoi, et je viens de la recherche. Moi, je suis au CNRS, donc c'est normal pour moi d'entrer dans ce modèle. Donc, j'ai la chance d'y être déjà. Parce que du coup,
tu y travailles toujours.
Oui, je travaille toujours. Oui, je suis à temps partiel au CNRS. Oui, je continue de faire. Bah oui, c'est dans ce cadre-là que je fais cette recherche.
T'as super.
Plus ton activité de formatrice, tes journées doivent être bien remplies.
C'est ça. Mais en même temps, c'est une belle transmission, donc je suis très contente.
Et tout à l'heure, tu disais que la thérapie Mosaïque, ça marchait surtout sur les sensations. Mais il y a des gens comme moi qui sont très dans les sensations, mais il y a des gens comme Catherine qui sont plus cérébrales. Pas trop dans la sensation.
Ouais, moi, c'est quelque chose que je découvre maintenant, mais effectivement, à la base, je suis plutôt...
Est-ce que la thérapie de Mosaïque peut marcher sur des gens qui sont un peu comme Catherine, ou est-ce qu'il y a des gens, des profils de personnalité sur lesquels ça sera plus difficile?
T'as une part de réponse, parce que j'ai dû être cobaye à plusieurs reprises. Attends, Catherine, il faut que je teste des trucs. As-tu un problème à résoudre?
Les conjoints de psy.
Je dirais que quelqu'un qui est vraiment dans le mental, ça lui fait encore plus de bien. C'est essentiel. En fait, moi, je dis souvent, il y a des gens qui me disent ça, mais ah, mais moi, je suis coupée de mes émotions, moi, je sens rien, je suis coupée de mon corps. Donc là, moi, je leur dis, donc si là, je vous touche, vous n'allez pas sentir ma main. Bah, si, je vais la sentir. Bon, alors, vous sentez, donc. Vous sentez le froid, vous sentez le chaud. On sent. C'est juste qu'il faut juste aider la personne, aider le patient à bien maintenir son attention dessus. Et ça, c'est tout notre travail. Je dirais qu'il n'y a pas de patient qu'on ne peut pas aider. Il y a des thérapeutes qui n'arrivent pas à amener le patient à cet endroit-là. Donc, c'est notre responsabilité en tant que thérapeute d'amener la personne à sentir. Parfois, ça prend plus de temps, ça c'est OK, mais on est dans cette responsabilité-là. Et moi, je dis, s'il n'y a pas d'échec pour vous, il peut y avoir un échec que pour moi. Donc, moi, je vais vous y amener. Donc, après, il y a des techniques qu'on voit dans la formation pour amener tout le monde dans les sensations. Tout le monde y va. Ça, c'est sûr. Alors, c'est sûr que si on a des gens qui sont très traumatisés, qui ont des traumas complexes, qui ont beaucoup de coupures, de dissociations, où ils se coupent des émotions, ben, on va travailler à des moments, mais je dirais un peu comme toutes les thérapies, à des moments qui sont dans la fenêtre de tolérance. Donc, on va essayer de ne pas les activer. Et justement, puisqu'ils n'ont pas raconté l'histoire, ça va le permettre aussi, pour qu'ils soient dans un sentiment déjà de sécurité quand on fait la thérapie, pour pouvoir aller dans leurs sensations.
J'avais une question aussi de la thérapie mosaïque. Tu nous as parlé de comment ça s'est créé, mais depuis que tu l'as créée, est-ce qu'elle a évolué? Comment ça se passe? Est-ce que ça bouge encore ou est-ce que c'est un modèle qui est figé le temps que tu fasses tes études scientifiques et tout? Comment ça se passe?
Non, bon, le protocole n'a pas changé. Il y a plusieurs protocoles en fait, puisqu'il y a plusieurs spécialisations. Il y a le mosaïque de référence qui est celui qui concerne le trauma simple, et puis après il y a le protocole pour le trauma complexe qui est plus complexe justement, qui est le plus adapté. Mais qui est toujours basé sur le même principe de départ. Donc, le principe de départ reste le même. Puis, il y a des protocoles aussi pour d'autres, pour l'addiction, pour les troubles anxieux, les phobies, les TOC, etc. Donc, il y a des modules, et j'ai créé, oui, des nouveaux modules, et je fais sans arrêt évoluer. Sans arrêt évoluer parce qu'il y a des nouvelles expériences, parce qu'il y a des questions, parce qu'il y a des patients qui sont plus particulièrement liés que d'autres. Donc, en fait, non, elle évolue sans arrêt. Pour donner un exemple, moi, il y a une façon d'analyser le problème et le fonctionnement du patient qui n'existait pas du tout initialement et que j'ai créé complètement, qui s'appelle la boucle temporelle, où, tu te rappelles, Fabien, c'est difficile. C'est un outil qui est fondamental. Et maintenant, ça aide tellement les gens, ils vont tellement plus vite et ils comprennent tellement plus où il faut agir. Parce qu'on peut ne pas agir au bon endroit. Alors, ça ne fait pas de mal, mais ça ne fait pas un bien énorme. Si on agit au bon endroit, on est très, très efficace. C'est vraiment une thérapie très stratégique aussi, hein, je tiens à le souligner, où on doit aller au bon endroit. Et cette boucle temporelle, par exemple, permet vraiment d'aller au bon endroit. Et ça, c'est vraiment une évolution pour moi majeure que j'ai appliquée dans toutes les spécialisations que je présente. J'ai fait aussi créé le mosaïque enfant-adolescent avec une autre collègue, Aurélie Millet, qui est spécialisée dans les thérapies familiales, où on a vraiment implémenté toute la partie systémique dans le protocole mosaïque et où on a adapté les protocoles aux différents âges, hein, des enfants. J'ai créé aussi le mosaïque transpersonnel, donc qui s'adresse un peu à un public différent, puisque c'est aussi quelque chose qui s'adresse à des non-professionnels. Ce n'est pas des gens qui sont obligés d'être dans la relation d'aide. Et ce module permet aussi d'être utilisé en thérapie, si on veut, mais permet d'accéder aussi à des expériences de plus grand que soi. On parle beaucoup de la psychologie transpersonnelle, mais vraiment, c'est un des aspects de la psychologie transpersonnelle. Voilà, que j'ai créé, puis d'autres modules arrivent, donc voilà, ça évolue sans arrêt, puis je dirais que même chaque module évolue pour être de plus en plus fin et de plus en plus efficace.
Et tu m'avais parlé aussi qu'il y avait deux mosaïques, que toi tu étais mosaïque alpha, est-ce que tu peux éclaircir un peu le fonctionnement de...
Ah non, il y a thérapie mosaïque, et comme je disais, comme j'ai beaucoup changé de choses, maintenant je l'appelle thérapie mosaïque alpha, même si le site internet reste thérapie mosaïque. Sinon, je trouve que les gens vont pas se repérer puisque mon collègue de départ continue de l'appeler thérapie mosaïque. Et donc, moi, je veux montrer que voilà, il y a du changement, il y a eu beaucoup de changements. Donc, j'ai rajouté mon nom pour dire, voilà, ça c'est ma spécificité. Donc, à tous ces changements dont je te parle, vont pouvoir rentrer sous ce chapeau de thérapie mosaïque alpha, bien que je vais utiliser les deux noms. Hein.
Et si on a envie d'en savoir plus sur la thérapie mosaïque, où est-ce qu'on peut aller? Est-ce que tu as un site internet ou des réseaux sociaux ou...
La thérapie mosaïque, oui, il y a le site internet, ça c'est le mieux à faire déjà au départ, thérapiemosaïque.com, un mosaïque avec un C. On a un Facebook, on a LinkedIn, Instagram, je ne sais plus quoi encore, on a des trucs comme ça. On a une chaîne YouTube où il y a quelques vidéos, avec des témoignages, et puis j'explique un petit peu. Donc toujours la thérapie mosaïque. Il y a, pour les courageux, il y a des articles scientifiques. Donc vous pouvez lire, il y a un premier article qui explique la méthode en elle-même. Il y a un deuxième article, donc la méthode initiale, hein, sans la boucle temporelle. Il y a un deuxième article c'est l'essai clinique. Et puis j'ai écrit un livre aussi, qui s'appelle « De l'EMDR à la thérapie mosaïque », où là, j'explique comment ça fonctionne. Donc voilà, donc avec tout ça, il y a de quoi se renseigner sur la thérapie mosaïque.
Et moi, je serais intéressée de savoir, toi, ce qui t'a plu en tant que
non spécialiste de cette thérapie, tu t'es formée auprès de Stéphanie, tu vas continuer à le faire dans d'autres modules. Et toi, qu'est-ce qui t'a, parce que ça t'a branché, quoi. J'ai vu que ça t'a plu comme. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette approche-là, quoi.
Ce qui m'a beaucoup plu déjà, c'est qu'on m'explique le fonctionnement du cerveau. Tu vois, moi, c'est vraiment un truc que j'en ai vraiment pas beaucoup entendu parler. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Et puis, j'aime bien aussi le côté où on va chercher à travers le corps, à travers les sensations, et le fait que on voit la personne aller mieux tout de suite. C'est-à-dire que il y a pas de comme le MDR où j'avais fait quelques séances avec toi d'ailleurs. On va faire une séance de MDR. Bon, allez,
c'est les premières minutes, c'est pas marrant.
Ça va être une journée un peu difficile, quoi. Là, j'ai pas eu ça. C'est même plutôt chouette à expérimenter, parce que durant la formation, t'expérimentes et puis tu vois ce que ça fait sur toi, tu vois ce que ça fait sur l'autre. Et puis, une fois que tu l'as testé dans les deux sens, moi, j'ai eu envie de voir le reste et d'intégrer ça avec tout plein de modules qui sont assez concrets. Comme le trauma complexe, les enfants, l'addiction, tout ça, c'est des trucs qui m'intéressent bien. Et là, en tant que tel, je ne sais pas encore comment adapter ce noyau que j'ai vu là à plein d'autres situations. Et justement, c'est ça que j'attends après de voir dans tous les prochains modules que je vais avoir entre le mois de mai et le mois de novembre, parce que je vais être occupé.
Et dans notre newsletter qui est paru hier, tu as parlé de ta première supervision, donc qui était avec Stéphanie et qui t'a enchanté, où tu as eu l'impression d'apprendre plein de trucs.
Oui, alors ça, c'est un truc que j'ai trouvé très bien aussi, c'est qu'une fois que le module de base a été fait, pour suivre les autres modules supplémentaires, il faut avoir une supervision pour vérifier qu'on a bien toutes les connaissances et qu'on part dans la bonne direction. Et ça, je trouve que c'est une bonne idée, je trouve, poussée, parce que ça éduque les psy-novices à la supervision, mais ça permet aussi d'avoir un contrôle sur ce qu'on fait. C'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment très chouette. Puis les retours m'ont bien aidé en plus, donc merci Stéphanie.
Bon, avec plaisir. C'est fait pour.
Imaginons que quelqu'un soit intéressé par la thérapie mosaïque. Comment est-ce qu'on fait pour trouver un ou une professionnelle qui pourrait les aider?
Alors, moi, j'ai créé sur mon site, il y a les annuaires. Il y a l'annuaire des personnes qui ont commencé le parcours, donc, et puis qui sont en parcours, parce qu'on peut faire il y a un parcours de 19 jours si on fait toutes les spécialisations. Donc, mais à chaque fois qu'il y a une spécialisation a été faite, on peut l'annoncer sur le parcours accompli. Pour ça, il faut avoir fait au moins une quinzaine de séances et puis avoir été supervisé et puis avoir fait le protocole de base, puis après d'autres spécialisations. Et puis après, il y a un annuaire des gens qui sont certifiés, donc des gens qui vont vraiment passer une certification pour aller et qu'on fait toutes les spécialisations. Donc voilà, donc les deux annuaires sont sur le site. Alors après, il y a des gens qui ont fait mosaïque puis qui sont pas sur le site, mais parce qu'ils ont pas, parce qu'ils ont déjà tellement de clients, donc voilà. Mais en tout cas, c'est chaque semaine, on le remplit, on l'agrandit, donc parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc voilà, on peut trouver sur les annuaires des gens qui font la thérapie mosaïque. Et je rappelle vraiment que c'est aussi important que le thérapeute. Il n'y a pas que la thérapie, il y a aussi le relationnel qu'on a. Il y a des gens qui s'accolent, des gens qui s'accolent pas. Donc il faut aussi respecter ça. C'est les deux ensemble qui vont faire la bonne synergie, qui vont faire que quelque chose va fonctionner.
Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire en visio si on n'a pas quelqu'un
dans sa vie? Complètement. Complètement. D'ailleurs, moi, je fais des formations aussi en visio. Et moi, je fais beaucoup de thérapie en visio. Et oui, il n'y a pas de souci. C'est vraiment, j'ai beaucoup développé ça au moment du Covid. Et puis, ça marche très, très bien. Donc, oui, ça peut vraiment se faire en visio. D'ailleurs, sur le site, les gens qui font en visio ont précisé que c'était possible aussi en visio.
Super.
Tu sais si tu feras en visio, toi?
Je ne sais pas encore. Mais moi, je trouve ça quand même plus confortable le présentiel. Donc, à voir.
Moi, j'aime bien quand c'est du présentiel, c'est sûr.
Alors, et Catherine, est-ce que tu as d'autres questions que tu aimerais poser à Stéphanie?
Écoute, non, pas plus. Je crois que je les ai posées au fur et à mesure. Moi, j'aime vraiment ce côté scientifique. Enfin, pour ceux qui me connaissent, savent que c'est vraiment important pour moi. Et moi, quand j'ai rencontré le MDR, c'était un peu comme toi. C'était la première fois qu'on me parlait du cerveau, alors que je m'étais formée à plein d'autres choses avant. Et c'était la première fois qu'on me parlait de comment fonctionne un traumatisme dans le cerveau. Et moi, je trouve que c'est vraiment important de chercher un petit peu tous ces éléments-là. Donc là, je suis très contente de savoir que cette thérapie-là aussi... Enfin, tu fais de la recherche, puis le fait effectivement que tu sois au CNRS, c'est génial parce que tu sais faire une étude scientifique, tu sais comment lever certainement des fonds, enfin pour en demander, etc. Ce qui parfois peut être ce qui bloque aussi certains collègues, j'imagine, parce que ben nous, en tout cas, quand on fait que de la psycho, enfin on n'est pas du tout formé à comment on fait une étude scientifique. Alors sauf si on fait un master recherche, mais après du coup, on n'est pas clinicien, et puis parfois on se comprend pas entre clinicien et chercheur et chercheuse. Donc toi, c'est super parce que t'as la double casquette, donc c'est vraiment un positionnement que je trouve hyper intéressant. Et donc voilà, bah, je trouve ça très riche que du coup, Fabien, tu te formes à ça. Parce que c'est vrai que nous, on nous posait souvent des questions sur la différence avec IMO, RITMO, tous ces trucs-là. Mais en fait, c'est pas pareil, parce que j'ai l'impression que ces choses-là, c'est plutôt des choses qui ont été développées parce que certaines personnes ne peuvent pas se former à l'EMDR, parce que c'est un nom déposé, et puis c'est quelque que les psychologues. Donc ça ressemble plus à l'EMDR, alors que toi, ce que tu décris, c'est que tu es dans une autre démarche, même si tu as TSBA. Il y a ce côté orienté solution qui est vraiment prégnant, qui va être du coup différent de ces autres approches-là.
Ah oui, vraiment, tout le protocole est complètement, complètement différent, ça n'a rien à voir. Et peut-être, si vous voulez bien, je rajouterai quelque chose, parce qu'on me pose souvent cette question de qui je forme. C'est une grande question, parce que c'est vrai que dans la thérapie EMDR, ils ont choisi de former les psychologues, les psychiatres, les psychothérapeutes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'abréactions, il y a des émotions très douloureuses qui peuvent apparaître, et ce qu'on n'a pas, ce qu'on provoque pas en tout cas avec Mosaïque. Et moi, pour moi, il est important que tous les gens qui sont dans la relation d'aide, qui vont rencontrer systématiquement des gens qui ont des traumatismes, parce qu'il y en a un pourcentage énorme. Il faut savoir qu'au moins 70% de la population a vécu un événement traumatique. Donc même si elle n'a pas développé un trouble de stress post-traumatique tel que défini par le DSM-5 dans le manuel psychiatrique, il y a beaucoup de gens qui ont des traumatismes, donc ça nous concerne pratiquement tous. Et c'est vrai que avoir des patients quand on est infirmier, quand on est sophrologue ou autre, et pour lesquels on peut pas apporter de l'aide, c'est difficile. Donc moi, j'ai vraiment fait le choix pour les gens qui sont dans la relation d'aide ou en reconversion, pour aller vers la relation d'aide, de pouvoir pratiquer la thérapie mosaïque. Alors ça veut pas dire qu'ils vont pas aller faire d'autres choses à côté, hein, ils vont s'attendre des compléments, mais c'est important, je trouve, que il y ait des accès, et je tiens à ouvrir ces accès à tous ces gens-là, parce qu'ils sont en contact avec ce public et que ça va vraiment les aider.
Et tu as tout à fait raison, c'est vrai que nous on reçoit souvent des demandes de personnes qui n'ont pas le diplôme de psychologue mais qui sont dans la relation d'aide et qui disent mais moi en fait justement je veux me former au trauma mais en fait tout est fermé, c'est juste pour les psychologues, donc c'est du coup voilà, pour les personnes qui nous écoutent c'est important de dire que tu formes toutes les personnes qui sont dans la relation d'aide, mais qu'ils soient psychologues ou pas.
C'est ça.
Ah, super.
Stéphanie, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter pour terminer cet épisode ou...
Déjà, j'aimerais vous remercier tous les deux. C'est très gentil de m'avoir invité. C'est vraiment avec grand plaisir que je viens parler auprès de vous. Et ravi de te former aussi, Fabien. Je dirais un message d'espoir, quoi. Vraiment, on peut aller bien sans souffrir. On peut aller bien dans la douceur. Et c'est vraiment, moi, ce que je veux apporter dans ce monde. C'est vraiment... Alors, c'est pas qu'on aura du 100%, on va pas avoir des miracles, mais vraiment, on allège, on apporte vraiment des solutions et ça peut être vraiment plaisant, ça peut être bon. Et c'est ça que je veux apporter avec la thérapie mosaïque.
C'est un beau message. Un
très beau message. Eh bien, merci beaucoup, Stéphanie.
Merci à vous deux.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, pensez à vous abonner et à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme de podcast favorite. Déjà, ça nous fera plaisir de voir que vous appréciez notre travail, mais cela permettra aussi aux algorithmes de proposer notre podcast à d'autres personnes susceptibles d'être intéressées. Merci d'avance et à bientôt.